RMC, la boîte à souvenirs, Stephen Brun.
Salut à tous, c'est Stephen Brun, j'ai 40 ans, je suis un basketteur professionnel, double champion de France Pro A, 15 sélections en équipe de France, et beaucoup plus de pétage de plomb. Et ensemble, nous allons ouvrir ma boîte à souvenirs.
RMC, la boîte à souvenirs.
Bonjour à tous, très très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de la boîte à souvenirs, votre émission intimiste sur RMC avec les membres de la Dream Team. Et aujourd'hui, nous sommes donc avec Stephen Brun. Salut Stephen.
Salut JC.
Alors durant une heure, nous allons ouvrir ensemble ta boîte à souvenirs, se rappeler tes grands moments, tes cicatrices, ton caractère bien trempé évidemment, tes sautes d'humeur, le champion que tu étais, l'homme que tu es devenu. Ton boulot est très simple, devant toi, une boîte, plusieurs papiers glissés à l'intérieur. Et au fil de notre discussion, tu vas pouvoir les tirer au sort. Dessus, un mot, une date, un moment que tu vas nous raconter, évidemment. Avant de débuter, Stephen, comment tu te sens? Toi, le champion de basket, toi, habitué à la pression.
Écoute, un petit peu stressé parce que j'ai eu l'occasion de découvrir cette émission la saison dernière. J'ai écouté pas mal de mes camarades de RMC et bon, toujours un petit peu tendu parce qu'on rentre vraiment dans la vie intime. Donc, impatient, mais aussi un petit peu stressé.
Oui, un petit peu stressé parce que je le dis avant cette émission, tu es quelqu'un d'émotif.
Très, très émotif.
Très émotif. On va vérifier ça. Évidemment, ce n'est pas que de l'émotion, bien c'est sûr. Du sourire. C'est aussi se rappeler le champion que tu étais ou tout simplement te découvrir pour tous les auditeurs qui vont pouvoir découvrir cette carrière car tu as eu une très, très longue carrière, Stephen. La boîte à souvenirs avec Stephen Brun, c'est parti. Tu vas pouvoir piocher ton premier papier dans cette boîte à souvenirs.
Alors, ma première suspension.
La première suspension, tu sais de quoi on va parler?
Oui, c'est possible.
Alors,
Il y en a eu beaucoup.
Il y en a eu beaucoup. On va parler de la première. Tu as fait ta formation à Cholet. Après cette formation à Cholet, tu vas être prêté à Mulhouse en Pro B pour faire tes armes, évidemment. On est en septembre 2001. Tu as donc 21 ans. Et là, tu vas connaître ta première embrouille dans le monde pro avec ton coach Philippe Zaniel. Est-ce que tu peux nous raconter cette embrouille?
Philippe Zaniel qui était arrivé, qui avait pris la succession de Jamel Benhabib au coaching. Philippe Zaniel qui était un ancien très très grand joueur de basket français. C'était sa première expérience de coach et il faisait des échauffements un petit peu étranges, des exercices un petit peu étranges. Et puis moi, bah écoute, avec ma traditionnelle grande bouche, je lui avais dit que très clairement que ce qu'on faisait c'était de la merde. Et donc il m'avait renvoyé de l'entraînement et puis je m'étais repointé le lendemain matin pour m'entraîner à 10h dans les tribunes et il était arrivé, il m'avait dit mais qu'est-ce que tu fais là toi? Je dis bah je sais pas, il y a entraînement à 10h, je vais m'entraîner, il me dit il faut vraiment que je la raconte jusqu'au bout cette anecdote.
Tu peux y aller.
Il m'avait dit ah non, toi tu t'entraînes pas. Je dis bah pourquoi je m'entraîne pas? Il me dit mais toi tu sais ce que tu vas faire mon grand? Je dis bah non. Il me dit bah tu vas prendre ton doigt, tu vas te le mettre dans le cul, tu vas faire l'hélicoptère avec. Donc bah j'avais pris mon sac à dos et j'étais reparti et après j'avais été suspendu, il me semble une grosse semaine.
Ouais, tu avais une réunion avec le président. Ouais. Il a fallu que tu t'excuses auprès de Philippe Zaniel?
Bien sûr, il a fallu que je m'excuse, comme très souvent, que je fasse profil bas, amende honorable, pour réintégrer l'équipe. Et puis après, ça s'était plutôt bien passé sur la fin de saison.
Ouais, tu avais déjà une mauvaise réputation. Je le répète, hein, tu viens de commencer ta carrière professionnelle.
Pas vraiment, parce que à Cholet, pendant mes 3 années de formation, alors oui, j'avais du caractère, mais tu sais, quand t'es en centre de formation, t'es un petit peu pouponné, on te fait à manger, on te fait ta lessive. Et là, j'étais rentré dans le grand bain du monde professionnel où j'habitais tout seul, je devais me faire à manger, je devais. Dans le monde des pros, quoi, où il y avait des obligations de résultats. Chez les jeunes, c'est plus un peu. On est là pour te former, pour t'amener au haut niveau et au monde professionnel. Mais quand tu rentres dans le monde professionnel, il y a des enjeux, il y a des victoires, il y a des postes qui sont en jeu aussi. Si ça gagne pas, la tête de l'entraîneur est parfois mise à prix, donc je ne m'étais pas bien rendu compte de tout ça, et c'est vraiment la première incartade qui fera peut-être ma réputation par la suite.
Certains coéquipiers tentent déjà à l'époque de te canaliser?
Oui, un petit peu, tente de m'expliquer, notamment un garçon qui s'appelle Germain Castano, qui était mon coéquipier de l'époque. Lui, il était sur la fin, moi j'étais sur le début.
C'était
le capitaine, ouais. Il m'avait pris un petit peu sous son aile pour m'expliquer un petit peu les ficelles du monde professionnel, mais je suis pas sûr que ça ait très très bien fonctionné par la suite.
On va écouter justement Germain Castano. Il y a des surprises dans cette émission. Tu ignores tout, évidemment, de pas du concept, mais de l'émission. Germain Castano sur Stephen Brun à l'époque.
Je l'ai toujours dit, moi, Stéphane, il y a deux personnalités. Et parfois, moi, j'étais un joueur, et je devais être capitaine de cette équipe, et j'étais meneur de jeu, un joueur avec beaucoup d'expérience. Et on essayait de lui expliquer, de lui dire, Stéphane, il y a des réactions que tu peux pas avoir. Parfois, quand il avait des humeurs, c'était juste incroyable. Et quand il avait envie de dire un truc, il disait un truc. Le problème, c'est que dans un sport collectif, on peut pas avoir ces réactions-là. Alors, sur le terrain, c'était facile d'être ce coéquipier. Mais parfois, humainement, il fallait vraiment le raisonner. Et parfois, c'était très difficile.
Oui, Germain, il en a vu des vertes et des pas mûres avec moi, parce que je l'ai retrouvé par la suite à Boulogne-sur-Mer, c'était mon coach. Mais c'est vrai que j'avais cette réaction de dire tout de suite ce qui me passait à travers la tête, alors que par la suite, on m'a expliqué que tu sais, parfois tu peux laisser passer l'entraînement, demander un rendez-vous pour dire ce qui ne va pas. Mais moi, la moindre injustice, la moindre chose, en plein milieu de l'entraînement, moi, j'ai saccagé les entraînements parce que je pétais un plomb. Je disais, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est n'importe quoi. Et l'entraînement partait en vrille. Et les coachs m'en ont énormément voulu parce que tu saccages le travail de sa préparation d'entraînement, mais tu saccages aussi le travail collectif. Voilà, je n'arrivais pas à me retenir quand il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il fallait que ça sorte tout de suite, en fait. Et j'ai rarement très bien choisi mes moments.
Côté impulsif, mauvais joueur ou pas?
Mauvais perdant, très mauvais perdant, pas tricheur. Pas tricheur, honnête, mais très très mauvais perdant. J'accepte pas la défaite. Et ça peut me gâcher des week-ends, parce que dans ma carrière, ou quand on perdait le samedi, j'étais imbuvable pour mes proches, pour ma famille, pendant 48 heures, parce que j'acceptais pas le fait de perdre. Je faisais la gueule. J'arrivais le lundi matin, je faisais la gueule. Mauvais caractère, impulsif, bien sûr, impulsif. J'avais des gestes, mais parfois, aujourd'hui, maintenant, avec mes 40 ans, de temps en temps, je suis chez moi, je m'amuse à repenser à ce que j'ai pu faire. J'ai dit, mais comment t'as pu faire ça? Une faute pas sifflée, coup de pied dans le ballon, une faute pas sifflée, j'explosais une bouteille d'eau, des gestes incompréhensibles maintenant. Mais
tu as 40 ans aujourd'hui, oui. Tu as arrêté ta carrière il y a 4 ans. Aujourd'hui, tu es encore un mauvais perdant ou pas?
Bien sûr, je suis un mauvais perdant, mais c'est compliqué pour les gens, parce que même en vacances l'été, une partie de pétanque, une partie de fléchette, je peux pas supporter la défaite. Une compète avec mon fiston, il faut que je gagne. Il a 9 ans, il finit en larmes parce que je lui mets des doudounes à FIFA ou à NBA 2K.
On va écouter Laetitia, ta compagne, ancienne basketteuse professionnelle, qui va nous raconter une anecdote. On va voir si t'as changé sur un parquet. Tu le dis toi-même, pas trop, hein.
C'était à la Hoops Factory et du coup, on jouait avec Erwan et Thomas, ses collègues de la First Team aussi. Et du coup, on a joué un 2 contre 2. On avait gagné la première manche et la deuxième manche, on a perdu. Et sérieusement, je ne mettais plus mes paniers. Il n'y avait que Stephen qui mettait ses paniers. Et compétiteur comme il est, il s'est énervé. On devait rentrer ensemble, comme d'habitude. Et en fait, là, il est parti. Il m'a laissé à la Hoops Factory tellement il était énervé parce qu'on avait perdu. Voilà, et du coup, je suis rentré en Uber.
C'est pas à mon avantage, cette anecdote. Mais en fait, recontextualisons la chose. Mes deux collègues, Thomas et Erwan, étaient persuadés, ils n'arrêtaient pas de me chauffer. Ils me disaient, Laetitia, d'accord, c'est la Jeux Olympiques, équipe de France, mais en 2-2, on te tape, bon, tu ne vas pas gagner avec ta femme contre nous. Et moi, je m'étais mis en tête, il était hors de question que je perde. Et ces petits chenapans, ils se mettaient à deux sur moi, ils laissaient toujours Laetitia tout seul. Et moi, je suis un peu un garçon altruiste, donc je lui faisais des passes, elle mettait pas un tir. Elle mettait pas un tir. Et on a perdu, et je voyais les deux loustiques là qui étaient morts de rire, et j'ai pété un plomb. Coup de pied dans le ballon, je suis parti, j'ai pris mes affaires, et la pauvre Laetitia, elle est restée toute seule à la Loose Factory avec les deux loustiques qui étaient morts de rire.
T'as dû t'excuser, j'imagine. T'as passé un sale week-end?
J'ai passé un sale week-end, j'ai pris carton rouge. commission de discipline, suspendu 48 heures.
Bon, c'est toujours ta compagne, évidemment. Oui, vous aimez très fort, il n'y a pas de souci. Mais c'est aussi le côté que nous allons vous faire découvrir de Stephen. On revient juste à Mulhouse, tu resteras une saison. D'ailleurs, on va le voir dans cette boîte à souvenirs, tu ne restes pas très longtemps dans un club parce que souvent ça se termine mal. À Mulhouse, tu ne restes pas et tu partiras à Nantes. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. La boîte à souvenirs avec Stephen Brun et un nouveau papier à tirer pour toi.
Allez, on y va. J'ai l'impression d'être dans Motus avec les boules. 23 ans et déjà tricard.
Bah justement, après cet épisode de Mulhouse, tu vas signer In Extremis, je le disais, à Nantes en Pro B. In Extremis, hein, parce que déjà ce transfert a eu du mal à se faire. On est en 2002, tu as 22 ans. Là aussi, ça va mal se passer. Tu vas rester quelques mois. Et déjà à ce moment-là, tu sens qu'il n'y a plus aucun club qui veut de toi.
Ouais, déjà c'est une signature très tard, au mois de septembre, alors que la saison a quasiment repris. Moi, je retourne habiter à Cholet parce que ma maman vit à Cholet, en attendant qu'un club me fasse signe. Et je vais à Nantes, qui est pas très loin de Cholet. Mais je suis le dernier joueur signé, donc il reste pas grand-chose au niveau financier. J'habite en coloc avec un jeune espoir du club. Et puis, là aussi, rebelote, mes sautes d'humeur. Je joue pas, donc je pète des plombs. De nouveau suspendu par Thierry Chevrier, qui était mon coach à l'époque. Et à la fin de cette saison-là à Nantes, plus personne veut de moi. Je suis blacklisté comme joueur ingérable, incoachable, imbuvable aussi. Et je suis en galère parce qu'en France, pour moi, c'est terminé.
Et ton agent t'appelle ?
Mon agent m'appelle, me dit, écoute, il faut que tu restes en forme, donc tu vas aller faire la préparation du côté d'Épinal. Je fais une préparation d'un mois, et puis là, j'ai un coup de téléphone en disant, écoute, il faut que tu prennes le train. Il y a un club en Suisse, à Lausanne, qui veut te voir à l'essai. Et là, Lausanne, c'est le basket suisse, à l'époque, il est semi-pro, quoi. Il n'est pas réputé pour sa qualité, donc j'y vais, je prends le train, je suis accueilli par deux bénévoles du club, un couple très gentil qui me mettent dans un hôtel. J'arrive à l'entraînement, je vois des garçons qui se pointent en costard-cravate, je dis « mais qu'est-ce que vous faites ?» Il me dit « ah ben nous on travaille, on a la banque la journée, on arrive, on vient faire un entraînement. » Je dis « ah mais il n'y a personne qui est pro ici. » Il me dit « bah si, il y a deux Américains, et puis tout le reste, on travaille la journée. » Et là, je dis, ah ouais, d'accord, je suis tombé là-dessus. Finalement, le premier entraînement se passe bien. Il me garde et il me signe pour 500 euros par mois. 500 euros par mois, un appartement. Et je peux manger dans un restaurant qui est partenaire du club le midi et le soir. Mais j'ai rien d'autre, donc je dis oui.
C'est la déprime là-bas ?
Ouais. C'est la déprime. C'est la déprime parce que je suis tout seul, parce que j'ai touché le fond, parce que pour moi, c'est peut-être la dernière chance, mais j'y crois plus vraiment. Je me dis, que veux-tu que je fasse après ça ? Les journées sont longues parce qu'il n'y a pas de salle pour nous. Il y a juste un créneau de 18h à 19h30 pour s'entraîner le soir. Et la journée, je fais rien. Je me balade dans les rues, j'écoute de la musique. Je ne peux même pas dire que je vais faire du shopping parce qu'avec 500 euros par mois à Lausanne, je vais deux fois au McDo, il n'y a plus rien. Donc je traîne la journée chez moi, je ne fais rien. J'ai la chance d'avoir mon meilleur ami qui n'est pas très loin, qui habite du côté d'Annecy, Lyon, qui vient me rendre visite pour me remonter le moral de temps en temps. Et puis bah, je joue des matchs. Voilà, je fais des stats, mais c'est compliqué. C'est
en
compliqué.
Plus, des grosses stats, hein, on a plus de 30 points par match.
Oui, mais c'est des grosses stats dans un championnat qui n'est pas très relevé, et puis j'ai carte blanche, pour exagérer le trait. J'ai envie de te dire que si je fais un skyhook du milieu de terrain, le coach il va me dire « Ah, Stephen, il va même pas m'engueuler, il va me dire « Ah, c'est peut-être pas le meilleur choix à faire, tu vois, donc je peux shooter tous les ballons. » Mais non, c'est des moments compliqués.
L'image que les autres ont de toi, c'est important, surtout ta famille à ce moment-là, car tu es en échec.
Écoute, j'ai jamais vraiment eu de discussion avec ma famille. C'est eux qui sont venus m'emménager à Lausanne, qui ont mon père, je me rappelle, avec son camion, et mes frères qui sont venus me rapporter mes affaires.
Tes frères, Johan et Jérémy. Et ton mon papa, père. Ouais. Ancien basketteur professionnel, ouais. On en reparlera.
Mais voilà, ils me disent pas, en fait. Ils me disent pas, tu te rends compte où t'es peut-être pour pas me vexer, peut-être pour me permettre d'y croire encore, mais je me rends compte que de toute façon, si j'y arrive pas là, il va falloir que je pense à autre chose. Et dans ma vie, j'ai pas eu beaucoup d'options B dans ma vie. À l'école, c'était pas vraiment mon dada, mais quand les profs te posent des questions, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, et que je leur mettais basketteur professionnel, ça les faisait sourire, mais j'avais pas d'options B en fait. Et comme ma reconversion, j'avais pas d'options B non plus. Donc s'il avait fallu arrêter le basket, je sais pas ce que j'aurais pu faire en fait.
Johan, l'un de tes grands frères, se souvient de ce moment et tu vas voir, pour lui, c'était pas si négatif.
Moi, j'étais fier de lui tout le temps, dans les bons comme dans les mauvais moments. Quand on a fait son déménagement en Suisse dans une camionnette et qu'on l'a emmené quand il a joué en Suisse et qu'on s'est aperçu que voilà, c'était un truc un peu semi-professionnel, mais que finalement, voilà, il vivait de sa passion, même petitement, on a toujours été fiers. Il faut toujours être fier. De toute façon, on est globalement dans la famille, on est plutôt fiers les uns des autres.
Jojo. C'est dur d'entendre des choses comme ça parce qu'en fait, moi, dans ma famille, on ne se parle pas beaucoup. On se parle, mais on dit pas des futilités, mais on va jamais si loin dans les choses, en fait. C'est la première fois, enfin, il me l'a déjà dit. Dans les moments positifs, qu'il était fier de moi. Mais sur cette période-là, j'ai jamais vraiment entendu ma famille, en fait. Mais...
Ouais, vous rigolez surtout, oui, surtout avec tes frangins. Oui. On blague, mais on n'est pas trop dans l'émotion.
Exactement, et moi qui suis quelqu'un de... plutôt jovial, toujours à plaisanter. J'ai ce blocage psychologique, en fait, dès qu'il faut parler de choses sérieuses, de problèmes, parfois, j'y arrive pas. Donc c'est pour ça que j'ai jamais vraiment eu de grosses connexions et de grosses discussions avec ma famille, mon père, ma mère et mes frères, parce que je mets tout de suite cette barrière, en fait, quand il faut aborder des problèmes sérieux. Mais ça fait plaisir d'entendre mon Jojo qui est loin de nous, qui habite à Chicago. Ça fait toujours plaisir d'entendre son frère dire qu'il est fier de son petit frère.
Ouais, puis c'est un moment douloureux parce que on ne se l'imagine pas. Club semi-professionnel, tu le disais, c'est quand même, tu débutes ta carrière et ça se passe pas très bien. Et tu le dis même toi, tu es prêt à arrêter s'il y a personne qui vient. Tu es prêt à arrêter le basket.
Bah parce qu'il n'y a pas plus bas, en fait. Si je n'y arrive pas en Suisse, tu veux que j'aille où? Ça n'existe pas, en fait, plus bas. Si je ne suis pas bon en Suisse, en France, c'est mort. Donc, c'est ma dernière chance. C'est ma dernière chance, mais c'est une dernière chance aussi salvatrice, parce qu'elle me permet, en étant tout seul, de prendre un petit peu de recul et de comprendre pourquoi j'en suis là aussi. Qu'est-ce que tu fais à Lausanne à gagner 500 balles par mois en jouant au basket? Pourquoi t'en es arrivé là, en fait? Et se rendre compte que t'as été un petit con, tout simplement, que t'as pas respecté les gens, que tu t'es cru au-dessus de tout le monde, et qu'on allait toujours te tendre la main, et que ben là, tu te rends compte que, ah ben non, il n'y a plus rien, en fait.
Et au bout de 6 mois, tout de même, ton agent t'appelle de nouveau.
Ouais. Mon agent m'appelle de nouveau et me dit « Écoute, Brest te veut », parce que Brest, à l'époque, était un club en deuxième division avec très peu de moyens et qui faisait des contrats un petit peu atypiques à l'époque, c'est-à-dire qu'il prenait des joueurs qui avaient besoin de se relancer, des bons joueurs, mais qui avaient besoin de se relancer, qui revenaient de blessures, et des contrats en disant que bah, tu commences avec nous, mais si un meilleur club te prend, tu peux partir. Donc c'était des contrats libres, tout ça. Donc ils venaient de perdre un joueur et ils se sont dit, bah, tiens, si on allait chercher le Loustic là-bas en Suisse, qui faisait des chiffres, qui faisait des stats en Suisse, pour le relancer, et bah, là j'ai sauté sur l'occasion, j'ai pris un vrai périple, hein, Lausanne Brest en train, avec mes 3 sacs de 20 kilos, un vrai périple, et je suis arrivé à Brest, et Brest, mine de rien, ça a été le vrai point de départ de la suite de ma carrière.
Ouais, tu vas signer 1 an et demi, ouais. Le contrat sera un peu mieux que 500 euros par mois, pas mirobolant, mais
non,
un petit peu mieux.
Vous êtes aux alentours des 1500 pour finir l'année, et 2000 ou 2500 l'année suivante.
Ouais. Et tu vas réaliser l'une de tes meilleures saisons de ta carrière, en tout cas au niveau chiffres, dans le basket professionnel, et ça va très bien se passer pour toi à Brest. D'ailleurs, après... Juste après Brest, il y aura l'ASVEL, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Stephen Brun avec nous sur RMC dans la boîte à souvenirs. Un nouveau papier avec toi dans cette boîte à souvenirs.
Le duo Brun-Cosette.
On va faire un saut de puce tout de même. Hein, parce que
ah oui, là on saute la carrière de basketteur. Là.
Exactement, on va y revenir à cette carrière de basketteur. Fin de carrière, je le disais, en 2016, tu as 36 ans. Et c'est David Cosette qui te met le pied à l'étrier.
C'est... En tant que
la
joueur,
voix du basket,
la voix de David Cosette, la voix 20-25 ans, qui a commenté les plus grands événements du basket français. Je joue à Nanterre, donc je suis encore joueur à Nanterre, et j'ai fait quelques interviews où on me parle un petit peu de mon après-carrière, et je clame haut et fort que moi j'aimerais bien commenter des matchs, travailler être consultant, travailler là-dedans, et lui il lit ça, il en profite pour... Que je sois en Ile-de-France à Nanterre pour me dire bah tiens, tu vas venir faire quelques essais pour commenter des matchs à l'époque sur le groupe Canal+. Et donc j'ai commencé par là, c'est David qui m'a fait commenter des matchs et ça s'était très très bien passé et j'avais adoré. J'avais adoré ça, donc mais après j'ai dû partir de Nanterre et ma carrière a continué, donc j'ai mis ça un petit peu de côté, mais c'est vraiment David qui m'a mis le pied à l'étrier. Et si j'en suis là aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à lui, et puis on a réussi à pas, je ne remplace jamais Jacques Monclar ou Georges Eddy, mais j'ai été peut-être son troisième binôme à succès à David.
David Cosette, Stephen Brun, voilà ce que ça donne.
Forcément être pour John Robertson. Ouais. Voilà, il est venu à l'ASVEL pour prendre ses responsabilités et pour faire gagner les matchs. John Robertson. Et ouais, il est venu pour ça, John Robertson. Quel dunk incroyable.
Aïe, David, le poster de Jacques Alagué, exceptionnel.
Oh non, j'arrête tout.
Oh là là. Oh mais c'est pas possible, il n'y a plus de mots.
Bon, je t'aime, Johnny.
T'aimes bien t'entendre? Tu trouves comment?
C'est pas le truc que je préfère, hein. Non, j'aime pas trop m'entendre. Alors, je m'entends parce que souvent, ils remettent des rediffs, des actions de match ou c'est des matchs que j'ai commentés, mais... Bon, c'est pas ce que je préfère m'entendre, mais c'est vrai que ce duo, il a bien fonctionné, il a matché tout de suite, et même si parfois il y a eu des moments, enfin pas des moments compliqués, mais David a été un bon formateur pour moi. Il m'a beaucoup conseillé sur ce que je faisais bien, sur ce que je faisais pas bien. Au début, il me faisait pas mal de débriefs sur le... Un duo, c'est quelque chose de compliqué à créer parce qu'il faut une certaine alchimie, savoir quand l'autre parle, quand l'autre ne va pas parler, quand c'est à ton tour. Et puis, il faut une connexion. Il faut une connexion pour que les gens ressentent, prennent du plaisir à vivre le match. Il faut qu'on s'entende bien, il faut que je le connaisse bien, lui aussi. Donc, on a un peu des gimmicks, on se taquine.
Mais vous êtes amis dans la vie.
Oui, on est devenu amis, bien sûr. Et ça se ressent, je pense, au micro. On a une bonne petite connexion.
Tu as toujours eu envie d'être journaliste ? Commentateur, en tout cas.
Consultant, oui, toujours. Toujours. Parce que je suis un fanat de basket, en fait. Je suis un fan de basket. Dans tous les clubs où je passais, j'arrivais le lundi, les mecs venaient me voir en me disant « Alors, il s'est passé quoi ?» Et je leur faisais le débrief du week-end sur 3-4 championnats avec les stats des joueurs, les mecs à l'étranger. Ils m'appelaient Wikipédia. Ils me disaient « Alors, Wikipédia, c'est quoi les news ?» J'avais toutes les news, je lisais tout, j'apprenais tout par cœur. C'était
le Thierry Henry du basket. Thierry Henry, il était comme ça.
Je rentrais chez moi après les matchs, je regardais les stats de tous les championnats, tous les highlights. Je suis fou de mon sport, en fait. J'avais envie d'en parler. C'est pour ça que j'avais envie de faire ce métier-là après.
Et ça, déjà tout petit, ta maman, Anne, nous le raconte.
Il a toujours su ce qu'il allait faire. Moi, il m'a toujours dit « Je veux être journaliste ». Et je lui avais dit « Mais t'as pas fait d'école ». T'as pas fait d'école de journalisme, comment tu vas être journaliste? Mais Stephen, c'est quelqu'un, je vais vous dire, de grand, dans tout le sens du terme. Charisme, personnalité, moi je me suis jamais fait du souci pour lui. Hein.
Ça fait bizarre d'entendre ma mère, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu, en fait. Bon, on sent qu'elle a de l'amour pour son fils. Hein. elle voit que les côtés positifs. Hein. Mais... oui, elle n'a jamais été inquiète, mais moi j'ai été inquiet pour elle. Hein. J'étais inquiet à sa place. C'est une relation compliquée avec ma mère. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu le téléphone, donc l'entendre là, c'est plutôt émouvant. Mais c'est vrai qu'elle a toujours senti en moi cette capacité à réussir, en fait. Même quand j'étais joueur, même quand j'habitais chez elle et que j'avais pas de club, elle était persuadée que ça allait tourner. Elle a toujours cru en moi, même en me reboostant parfois parce que j'étais au fond du seau. Ma mère, elle est un petit peu exubérante, hein. Mounette, hein, je l'appelle Mounette. Mais elle y a cru et j'ai réussi.
Stephen Brun dans la boîte à souvenirs sur RMC. Un nouveau papier avec toi. On se rappelle le champion que tu étais, évidemment, basketteur professionnel, Stephen Brun.
Oula, Tony Parker dans ma chambre.
Tony Parker dans ma chambre. On ne va pas parler de club, donc, mais d'équipe de France. Tu connais déjà l'équipe de France à prime, mais à l'été 2006, tu es appelé par Claude Bergeau, le sélectionneur, pour participer au stage de préparation de l'équipe de France A en vue des championnats du monde qui vont se dérouler au Japon. Il y a les Parker, il y a les Boris Dio. T'as une chance de faire les mondiaux à ce moment-là ?
Zéro. Mais zéro. Mais d'ailleurs, quand j'arrive, Claude Bergeau me dit « Écoute, Stephen, t'as été fantastique avec les A', je te récompense, mais tu sais qu'à ce poste-là, il y a peut-être ce qui se fait de mieux en Europe, Boris Dio et Flo Pietrus. » Donc, tu passes derrière ces garçons-là. Donc, ne te fais pas trop d'illusions. Fais ce que tu as à faire. Fais des bonnes séances d'entraînement. Commence à mettre un pied dans le groupe pour l'avenir. Mais le problème, c'est que je suis très bon. Je suis très, très bon. Et ça dure 3 semaines. Donc oui, les 3-4 premiers jours, je suis dans ma tête. De toute façon, tu es là.
Pour faire
pas.
Le nombre.
Exactement. Mais le problème, quand ça dure 7 jours, 14 jours, 21 jours, je commence dans ma tête à me dire « Eh, pourquoi pas ?» Surtout qu'on me demande mon passeport. On me dit « Tiens, file-moi ton passeport, on va faire le visa parce que le championnat du monde était au Japon. On va faire les visas. » Il me rend mon passeport, j'ai le visa pour le Japon. Tu vois, je commence à me dire « Ah, mais peut-être que je vais y arriver. » Et il y a un dernier match de préparation à Strasbourg. Avant de partir au Japon, et là, quand on rentre dans la chambre, coup de téléphone, parce qu'il y avait encore 2 joueurs qui devaient quitter le groupe, coup de téléphone de Claude Bergeau pour me dire « Est-ce que tu peux descendre, qu'on discute 5 minutes ?»
Et qu'est-ce qu'elle te dit ?
Et il me dit « Écoute, Stephen, t'as été incroyable pendant 3 semaines, c'est super ce que t'as fait, mais voilà, comme prévu, je t'emmène pas, parce que mes deux postes 4, mes deux ailiers forts pour la compétition sont Boris et Flo, et là je craque, et je prends un coup derrière la tête. »
Coupé au dernier moment, donc tu es le dernier joueur non sélectionné à ne pas participer à ces championnats du monde. Claude Bergeau, justement, sur ce moment.
Il avait été à la fois enthousiaste, à l'écoute, rigoleur de ce qu'on attend d'un joueur qui peut-être ne sera pas en sélection, voire d'un 10e, 11e, 12e. Et à ce titre, il avait été formidable. Bon, malheureusement pour lui et bien heureusement pour l'équipe de France, devant lui, sur ce poste-là, c'était Boris et Flo Pietrus. Et là où il a été vraiment un grand seigneur, c'est que c'est lui-même qui avait exprimé le fait qu'il était à ce moment-là, normalement dominé par des joueurs de ce calibre-là. Par contre, le lui annoncer, quand on sait à quel point il était cocorico, équipe de France, un mec investi partout où il passait, ça reste des épreuves humaines relativement compliquées, mais qui rapprochent les gens.
Ouais. Claude, c'était mon coach à l'ASVEL, Claude. Claude Bergeot. Et... c'est une épreuve dure parce qu'on te l'annonce dans une salle à part, en tête-à-tête avec le sélectionneur, et après il y a le dernier déjeuner en fait, où les joueurs ne sont pas au courant de qui va quitter le groupe, donc tu t'installes à table, tout le monde est là, et Claude Bergeot se présente et annonce le nom du garçon qui part, il dit voilà, Stephen va nous quitter, et là je me rappelle très bien, en plus c'était une belle purée maison, en plus qu'il y avait dans mon assiette, c'était un bon petit plat, et je peux pas manger en fait, j'ai la gorge nouée, et je me dis... Ne pleure pas, soit, retiens-toi, ne craque pas devant tout le monde et tout ça. Et en fait, j'arrive pas, je pleure et je quitte la table pour aller dans ma chambre pour pas pour être tout seul, pour m'isoler un petit peu. Et après, ça frappe à ma porte 5 minutes après. Et là, c'est pas n'importe qui vient me consoler.
Tony Parker, donc dans ma chambre. Tony Parker qui ne te connaît pas.
Il me connaît pas parce que c'est la première fois que j'arrive en équipe de France. Je fais une campagne d'équipe de France à prime avant. Et Tony est très ami avec Ronny Turiaf, avec qui j'ai fait cette campagne de France à prime. Et il m'a confié que quand il me voit quitter la table en larmes, il demande à Ronny, il dit « Mais dis-moi, Stephen, tu as vécu avec lui un mois, et que c'est un bon mec. » Et Ronny il dit « Mec exceptionnel et tout ça. » Il me dit « Très bien. » Et donc il se lève, il frappe à ma porte, j'ouvre. Il rentre, il me dit « Je peux te parler ?» tout ça. Je dis « Oui, pas de problème, je ne vais pas lui dire non. » Et donc il s'assoit, il me parle et il me dit « Écoute, c'est la première fois que je vois une réaction comme ça d'un garçon qui quitte l'équipe de France. Je suis touché, je suis ému, on a besoin de garçons comme ça qui sont investis pour le maillot bleu. Voilà, il me tient un discours, il me dit « Continue à travailler en club, c'est pas fini pour toi, tu vas revenir, c'est comme ça aussi, c'est les aléas du sport de haut niveau, il faut faire des choix. » Et moi, je suis triste et j'ai quand même un champion NBA qui est dans ma chambre et qui parle avec moi, quoi, alors que moi, je joue... Et c'est la force de Tony, c'est que quand tu arrives en équipe de France, il ne te fait pas ressentir ce décalage qu'il peut y avoir entre lui et les autres.
Il aime ce maillot bleu.
Et il aime ce maillot bleu et voir quelqu'un touché comme ça, d'être évincé de la sélection, ça l'a touché aussi.
Ça l'a touché et ça va souder quelque part votre amitié avec Tony.
Oui, parce qu'après, on reste en contact. Après, je joue à Gravelines et là, il m'envoie un message en me disant « Vas-y, Steve, viens à San Antonio, on est en finale, viens. »
Ça, c'est en 2007, l'année d'après.
Il me dit « Viens !» Et là, je dis « Allez, bingo, j'y vais. » Et je vais vivre peut-être le hors sportif. Le meilleur moment de ma vie dans un sport que j'aime. Il me fait vivre une aventure d'une semaine exceptionnel.
Alors, déjà, tu arrives chez Tony Parker.
J'arrive chez Tony Parker.
Vous imaginez, si vous adorez le sport, vous visualisez cette maison sublime. Et là, dans
j'arrive
la nuit...
en plus.
Tu arrives tard.
J'arrive à 23h. C'est pas lui qui vient me chercher, c'est son frère TJ, qui aujourd'hui est coach de l'ASVEL. Parce que TJ, j'avais joué avec lui. Après, je joue avec lui à Nancy. C'est TJ qui vient me chercher. Il me dit à Tony, Tony dort, il y a entraînement demain, il me fait visiter la maison et Tony entend qu'on arrive, il ouvre la porte, il me dit ah, « Salut Steve, ça va, je suis content que tu sois là, écoute, là je vais me coucher, on se voit demain matin, fais comme chez toi ». Donc TJ me montre la maison, il me dit ah, « Si t'as soif, il y a frigo, si jamais… écoute, et je passe la première nuit, mais avec le décalage horaire, à 6h, j'ai les yeux grands ouverts et j'ai soif. Et j'ai repéré où était le frigo avec les boissons dans la cuisine. Donc j'arrive dans la cuisine, j'ouvre le frigo, je prends une petite bouteille d'eau bien fraîche. Et là, j'entends une petite voix me dire, avec un accent français, qui essaye de parler français. Hey, bonjour. Et là, je me retourne. Et c'était Eva Longoria, qui était à l'époque l'épouse de Tony Parker. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, elle discute, elle me dit, ah, t'as fait bon voyage et tout ça.
Quand tu dis, qu'est-ce que c'est que ça? C'est qu'est-ce que c'est que cette vie?
Oui, qu'est-ce que je suis en train de vivre, quoi. En fait, je me peins, je me dis, mais c'est pas possible. Et voilà, elle me dit, alors, c'est bien passé le voyage. Tony, content que vous soyez là pour le soutenir. Et là, je vais me recoucher. Mais je vais me recoucher, je m'allonge, je bois de la bouteille d'eau. je peux pas dormir en fait. Je me dis, c'est pas possible. Dans quel monde je suis? Je vais assister au final NBA avec Tony, qui est un des joueurs majeurs des Spurs, avec Eva Longoria, qui est peut-être encore une plus grande star que Tony aux États-Unis. Je me dis, mais c'est ouf.
Ouais, c'est ouf. Et puis tu vas aussi accompagner Tony à l'entraînement, mais avec Popovic, avec toutes les stars.
J'étais un enfant. Tony, en fait, nous donnait le programme. Il disait, bon, demain matin, il y avait ses frères qui étaient là. Demain matin, 9h, départ pour la salle d'entraînement. À 8h45, j'étais prêt, moi. Hop, j'attendais. On allait à la salle d'entraînement. Tony s'entraînait. Moi, je regardais tout. Je regardais les entraînements. Il y avait Michael Finley, Manu Ginobili, Tim Duncan. J'étudiais tout. Et bon, les centres d'entraînement aux États-Unis, c'est monstrueux. Il y a une petite pièce où il y a des tables de ping-pong, où il y a à manger. Il y a des buffets, parce que les joueurs arrivent tôt, donc prennent des petits déjeuners. Donc moi, je me gavais, je faisais des ping-pong. Il y avait la famille de Manu Ginobili qui était là aussi. Je joue au ping-pong avec le frère de Manu Ginobili, Greg Popovich, qui nous croyait. Il dit, les Frenchies, pas trop de vin rouge ce soir avec mon ami Tony. Il y a match demain. Je faisais des photos avec Michael Finley. C'était un rêve.
C'était Disneyland.
À un moment, TJ, le frère de Tony, me dit, viens, on fait un petit 2-2. Donc, on jouait contre deux mecs qui étaient là, les passeurs. Il y a des ball boys en NBA, les mecs qui sont là pour faire les passes aux joueurs quand ils font des séances de tir. Et je dis à Tony, ouais, mais j'ai pas de chaussures. Il me dit, attends. Il me revient, il me dit, tiens, c'est les pompes de Tim Duncan, tu les prends. Donc, j'avais les pompes de Tim Duncan pour faire un 2-2 sur le parquet du centre d'entraînement des Spurs. C'était une semaine, c'était incroyable, j'y sais.
Stephen Brun avec nous sur RMC dans la boîte à souvenirs. Allez, un nouveau papier avec toi, Stephen.
Laisse-moi tranquille avec ton équipe de merde.
T'as l'air surpris.
Parce que je l'ai beaucoup dit cette phrase. Donc, je ne sais pas. C'est pour ça qu'il faut que je resitue. Est-ce qu'on ne serait pas à Boulogne-sur-Mer?
Exactement. On est à Boulogne-sur-Mer. On est en janvier 2014. Tu as 34 ans. Parce que Nanterre ne t'a pas prolongé. On en reparlera dans quelques instants. Tu es reparti vivre chez ta maman. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui veulent de toi. Encore à ce moment-là dans ta carrière, tu as 34 ans, je le rappelle. C'est assez compliqué cette période pour toi. Et la goutte d'eau, c'est quand Nancy te rappelle, le président veut absolument te faire signer, ça ne va pas se faire.
Ouais, c'est une période compliquée. Je reste longtemps chez ma mère. Tu te rends compte que je suis champion de France en titre. Et
Avec Nanterre
et personne ne veut de moi. C'est quand même paradoxal. C'est un échec de plus. Et là, j'appelle Germain Castano. Qui est
Lamine Mulhouse, capitaine de l'équipe à l'époque, on en a parlé.
Avec qui on est resté très proche. Et je l'appelle, et qui est aujourd'hui coach à Boulogne-sur-Mer. Je dis, écoute, Germain. Et je l'appelle quasiment avec les larmes aux yeux. Je dis, écoute, est-ce que je peux venir à Boulogne te voir, passer un moment? Il me dit, mais bien sûr, viens à la maison. Et donc, je débarque avec ma voiture chez lui. Au début, c'est juste comme ça, une visite par amitié. Ensuite, il me dit, bah, tu veux pas t'entraîner avec nous? Voilà, je fais quelques entraînements. Et puis ensuite, l'idée trotte dans les dirigeants. Il dit, bah, tu veux pas, pourquoi pas, on peut te faire une offre éventuelle, tout ça. Sachant que Boulogne-sur-Mer, à cette époque-là, est premier en Pro B. Donc, vise la montée, clairement. Ils se disent que peut-être que si on t'ajoute dans l'équipe, ça nous permettra d'assurer la montée. Et puis, bingo. Je me retrouve après avoir joué avec lui, je me retrouve à être coaché par Germain.
Tu signes, et puis fin de saison, Boulogne-sur-Mer monte en Pro A. Bon, il faut dire que la deuxième saison en Pro A ne s'est pas extrêmement bien passée, ça va assez vite se dégrader, car tu n'aimes pas perdre, et déjà ça se dégrade en conférence de presse.
J'étais déficient sur beaucoup trop de secteurs de jeu.
Le petit nouveau qui est arrivé, il est content, il s'est dit « Ah, c'est ça la Pro A, c'est cool, on a 3 secondes pour prendre un tir, c'est sympa, c'est pas mal ».
On met 86 points en attaque, mais en attaque, c'est que sur des actions individuelles, il n'y a aucun passing game, il n'y a rien.
En Agogné, ben, il met pas beaucoup de points, mais il nous met un petit tir en dehors de la raquette. C'est le premier de toute sa vie, je pense, qui nous fait vraiment du bien.
Voilà, ça, on a été ridicule, alors qu'on jouait presque notre peau, quand même.
C'est la Saint-Valentin, mais on ne s'aime pas tous dans cette équipe. On n'a pas forcément de poste 5 à qui tu peux donner le ballon poste bas et le regarder faire. On n'a pas cette qualité-là dans notre équipe.
T'envoies sur le petit camarade.
Hein. J'avais oublié tout ça. Ah, j'étais un bel enfoiré. Ah ouais, j'ai envoyé, mais c'était une année cata. C'était une année cata parce que déjà un petit club, donc les moyens financiers sont pas énormes. Et puis l'équipe est pas bonne dès le départ. La valse des Américains, je crois qu'il y a énormément d'Américains qui font des allers-retours. L'équipe est jamais la même. Et puis moi, je rentre dans une frustration. Je suis capitaine de cette équipe qui perd, qui est dernière du championnat, c'est mon ami qui est coach, et puis mon attitude se dégrade de jour en jour.
Et un jour à l'entraînement, avec Germain Castano?
Bah, je disjoncte, l'entraînement se passe mal, je dois mal parler à un mec, Germain on a marre, me dégage de l'entraînement, et puis j'éclate une bouteille d'eau, puis je dois lui lâcher cette phrase-là qu'on a lue sur le papier.
Laisse-moi tranquille avec ton équipe de merde.
Si tu me demandes de revenir en arrière aujourd'hui, je crois que je ne le ferai pas parce que je suis trop néfaste en fait. Je suis néfaste. Donc si le coach n'est pas mon ami, ça ne me dérange pas, mais je suis néfaste pour les gens qui m'aiment et pour les gens que j'aime, tout simplement.
Tu le penses vraiment ?
Ouais, je pense. Quand j'étais joueur, hein. Maintenant c'est terminé tout ça. Quand j'étais joueur, je pense que j'étais néfaste pour ceux qui, pour mes proches.
Vous avez mis du temps à vous réconcilier, plusieurs mois, et puis un jour, parce qu'après cet épisode à Boulogne-sur-Mer, tu vas retourner à Cholet pour la fin de ta carrière, et puis tu vas disputer ton dernier match à Cholet, et c'est lui qui t'envoie un petit texto d'ailleurs, un assez long texto pour te souhaiter bonne chance.
Quand il faisait son dernier match avec Cholet, ça, imaginez bien, hein, ça faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps après. C'est le dernier match de sa carrière. Moi, je me rappelle, j'étais en déplacement à Fos-sur-Mer. Et au lieu de faire la sieste, que je fais jamais, à vrai dire, je lui avais envoyé un long, 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 long message. Et il m'avait répondu. Et je pense que, voilà, c'était un échange qui avait été très, très fort et qui nous a réconciliés un petit peu, qui nous a rapprochés à nouveau. Et aujourd'hui, voilà, quoi. Même s'il y a eu cet épisode-là, moi, c'est comme mon frère aujourd'hui, Stéphane Brun. Donc, je lui en veux plus du tout, du tout.
Je me rappelle de ce message. J'ai trois pages d'ailleurs. C'était des mots qui me disaient l'amour qu'il avait pour moi, qui me tiraient un trait sur ce qui s'était passé, qu'il oubliait, qu'il effaçait un petit peu tout ce qui s'était passé à Boulogne-sur-Mer, qu'il était fier de moi aussi, parce qu'il m'a vu grandir, lui, il m'a vu débuter, Germain. Et c'était un soulagement en fait de recevoir ce message, parce que. Ça me faisait mal, j'avais mal au cœur de ne plus pouvoir parler à mon pote, de ne plus avoir cette même relation, de ne plus pouvoir plaisanter, de ne plus pouvoir l'appeler à n'importe quel moment pour rigoler, pour raconter une connerie, et j'en souffrais de ça, et le fait de recevoir ce message-là avant mon dernier match de ma carrière, ça m'a soulagé en fait, j'étais libre, soulagé, content, ému aussi. Et aujourd'hui, oui, c'est mon frère, Germain. C'est mon troisième frère. Il peut m'appeler quand il veut. Je serai là. Je sais que je peux l'appeler quand je veux. Il serait là. Aujourd'hui, il coach Orléans. Donc, je suis très fier de lui aussi, qu'il coach encore en première division et qu'il ait des bons résultats. Et pour reprendre une expression de jeune, un petit peu, c'est mon gars sûr, Germain. J'ai fait beaucoup de choses avec lui. Beaucoup de conneries et beaucoup de belles choses.
Stephen Brun est avec nous dans la boîte à souvenirs sur RMC. Un nouveau papier avec toi, Stephen.
Je veux faire comme papa.
Je veux faire comme papa. Tu es tout petit.
Oui.
Tu fais beaucoup de tennis à l'époque.
J'ai pas l'impression que ce soit un bon papier, ça.
Non, je sais. Je te cache pas que ça va pas être le meilleur pour toi. Même si tout va bien se passer, mais évidemment, il y aurait certainement un petit peu d'émotion. Tu fais beaucoup de tennis avec ton frère Johan.
Ouais.
Et à cette époque-là, tu veux devenir d'ailleurs professionnel de tennis.
Oui, c'est mon premier sport. Je joue au basket comme ça en loisir, mais je suis vraiment dans le tennis à fond. Je suis en sport-études au Mans. Je suis même cinquième français à 12 ans. Je fais des grands tournois en France. Je joue Michael Laudra. Je joue des bons petits tennismen qui aujourd'hui sont venus pros. Et il y a... Mes parents se séparent. Mes parents divorcent. Qui restera le plus gros traumatisme de ma vie. Et je jette la raquette, je dis, je ne veux plus jamais jouer au tennis, en fait. Et ma mère ne comprend pas, parce qu'elle n'est pas fan de tennis. Et je lui dis, c'est terminé, je vais faire du basket comme papa, en fait. Parce que... parce que je l'ai perdu, lui, et que le basket m'a raccroché à lui, en fait. Et... parce que j'avais des souvenirs de lui qui m'emmenait, parce qu'il était manager général du club du Mans, et je sais que le mercredi matin, il m'emmenait toujours avec lui, il était dans son bureau, et moi je joue au basket, j'avais le terrain pour moi tout seul, je joue au basket toute la matinée, et je sais pas pourquoi j'ai fait ça a fait beaucoup de mal à ma maman d'ailleurs, parce qu'elle a toujours eu l'impression que j'ai pris parti pour mon père, alors que c'est pas du tout le cas, c'est elle, moi j'ai grandi avec elle, c'est elle qui m'a élevé, on a été longtemps seuls tous les deux, parce que mes frères ont vite parti, sont vite partis de la maison, mais ce divorce-là m'a fait prendre la route du basket.
Il faut expliquer, Stephen, et évidemment on s'aperçoit et on connaît un peu plus ton caractère sur un terrain, sans faire de psychologie, évidemment, on n'est pas forcément là pour ça, mais il faut expliquer que cette fracture, ce divorce, tu as une dizaine d'années, tu as 14 ans, change beaucoup de choses dans ton état d'esprit, dans ta nature, c'est quelque chose que tu as, et même peut-être encore aujourd'hui, du mal à vivre.
Je me suis transformé, en fait. Avant, quand mes parents étaient encore ensemble, j'étais, pas dire un élève modèle, parce que ça veut rien dire, mais j'étais sage, je travaillais bien à l'école... j'avais pas de colère, tout allait bien. Et du jour au lendemain, quand mes parents se sont séparés, je me suis transformé, je suis devenu un élève turbulent, qui en a rien à cirer de l'école, qui répond à tout, qui a des réactions épidermiques, qui est nerveux, qui peut se mettre en colère pour pas grand-chose. Donc oui, ça a été une vraie bascule dans ma vie que j'ai gommé. Je veux pas dire que j'ai gommé, je suis en train de pleurer en parlant de ça, donc on peut pas dire que je l'ai vraiment gommé. Mais maintenant ça va mieux, même si pendant très longtemps, j'ai espéré un jour qu'ils se remettent ensemble. Donc à chaque fois qu'il y en avait un qui se remariait, c'était un calvaire pour moi. Remariage de ma mère, je pleurais, les gens disaient « il est content, hein, je suis pas content ». Remariage de mon père, pareil, j'étais en larmes, parce que ça peut faire sourire, mais jusqu'à 25 ans, je me disais encore, j'y crois en fait. J'y crois, ils vont revenir ensemble. Jusqu'au jour où j'ai compris que, en fait, c'était pas possible. Donc maintenant, j'ai fait le deuil de tout ça. Mais, et en fait, enfant, j'ai toujours rêvé d'avoir une grande famille, de faire des grandes tablées à Noël, que tout le monde soit là, qu'on se fasse des cadeaux, et que ça soit. Et tout s'est écroulé en fait. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui. La relation familiale que j'ai, que ce soit avec mes frères ou avec mes parents, elle est compliquée parce que je ne suis pas du tout famille, en fait, parce que j'ai l'impression qu'ils ont tout brisé.
On va écouter Johan, ton frère.
Bah, sûrement, je pense que le divorce des parents, c'est pas, même si ça arrive de plus en plus souvent, c'est pas une situation anodine. Et on le vit pas toujours de la même façon. Hier, moi, ça a été un moment pas agréable, mais moi, je l'ai plutôt assez bien vécu. C'est-à-dire que j'ai pas de traumatisme par rapport à ça. Lui, oui, sûrement un peu plus. Ouais. Ouais, lui, je pense que ça a été sa cassure par rapport au tennis. Ça a été aussi son désir de jouer au basket, je pense, pour peut-être se rapprocher aussi de notre papa basketteur.
Ah, mais pour lui, ça a été plus simple parce que lui, il est vite parti, en fait, de la maison. Lui, il était parti à la fac aux États-Unis pour le tennis. Donc,
quand on n'a pas le même âge, oui. On ne vit pas les choses de la même
exactement,
manière. Aussi.
Exactement. Moi, j'étais jeune et j'étais avec ma mère tout le temps, en fait. Donc, j'encaissais tout ça.
T'en as déjà parlé avec tes parents ?
Non. Mes gens proches savent que c'est un traumatisme pour moi, mais j'ai jamais vraiment allé au bout du process, en fait, pour évacuer la chose.
J'espère que tu ne vas pas nous en vouloir, mais on en a parlé avec tes parents. Anne et Christian, on va les écouter.
Moi, je suis parti avec Stephen à Annecy. C'est peut-être pas ce que j'aurais fait de mieux. J'aurais peut-être dû rester au Mans, en fait. Hein, mais je suis parti à Annecy. Alors, évidemment, après Annecy, ça a été pour lui une révélation. Il a adoré Annecy. Il a rencontré son meilleur ami. Mais ça a été très dur parce que, de toute façon, tout divorce chez un enfant, c'est un traumatisme hein, qui laisse des séquelles. Mais j'ai pas fait un divorce intelligent. Ça, c'est une certitude.
Alors, effectivement, moi, même s'il a eu un moment l'impression que son père l'abandonnait. Abandonné, c'est un bien grand mot, l'abandonner. Mais j'ai toujours été là, proche ou tout près de lui, tout au moins. Donc tout ça, j'en suis conscient. Et même s'il le sait peut-être pas, c'était quelque chose d'avéré pour moi, quoi.
C'est pas facile d'écouter, d'entendre ses parents là-dessus, hein. Sur un sujet qu'on n'a jamais vraiment voulu évoquer.
Non, et puis ils n'ont pas la même vision des choses que moi je peux avoir, en fait. Mon père qui... Peut-être que pour lui, il pense avoir été présent, alors que peut-être j'aurais voulu qu'il soit plus là que ce qu'il n'a été. Voilà, ma mère, je sais qu'elle, elle a tout fait, trop fait même, toute seule. Écoute, ça peut paraître, pour les gens qui nous écoutent, ça peut paraître une situation banale, parce que c'est vrai que les divorces aujourd'hui, il y en a énormément, mais moi, ça m'a bouleversé, tout simplement.
Et ça a construit aussi ta vie. Le joueur que tu es devenu aussi, ça l'a construit. Et c'est vrai que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, tu es moins en lien, moins en contact, même si tu l'es de temps en temps, mais oui. Moins en contact avec tes parents. Un nouveau papier avec toi, Stephen, dans la boîte à souvenirs.
Un papier marrant.
je l'espère. Je l'espère pour toi.
4 juin 2013.
Ah ben voilà un papier marrant. Ça, c'est quoi cette date ?
4 juin 2013, c'est quand on est champion avec Nanterre à Coubertin.
Exactement. Alors, on l'oublie peut-être, mais on en a un peu parlé dans cette émission, mais tu fais partie de cette épopée de Nanterre en 2013 où tu deviendras champion de France pour la deuxième fois pour toi. Mais alors, totalement à la surprise générale, vous allez en finale du championnat de France Pro A face à Strasbourg, c'est déjà un événement. Il y a 2-1 pour vous, c'est déjà un événement, ça joue au meilleur des 5 matchs. Il n'y a plus qu'un match à gagner. Ouais. Nous sommes le 4 juin 2013. Et là, juste avant à l'entraînement, avant de passer au bon moment, tu vas faire n'importe quoi.
Tu veux parler de l'entraînement ?
Oui. Juste avant ce dernier match.
C'est le 3 juin alors. Le 3 juin 2013, le dernier entraînement à Coubertin avant ce match 3. On s'entraîne pour préparer quand même un match pour être éventuellement champion de France en fait. Et ça me gave, l'entraînement il me gave. Ça fait 10 mois qu'on s'entraîne. C'est pas un entraînement de plus qui va changer quelque chose en fait dans ma tête. On s'en fout en fait. Les systèmes de Strasbourg, on les connaît par cœur, on sait ce qu'on doit faire. Et puis Pascal, je sais pas, il nous demande de faire du 5-5. Pascal Donadieu nous demande de faire du 5-5 avec intensité, mais j'en ai rien à caguer en fait. Donc je le fais en marchant et tout le monde est outré. Ils sont en train de se dire, mais qui c'est ce mec qui, sur un entraînement de veille pour être champion de France, fait tout en marchant?
Mauvais entraînement, ok. Sauf que Stephen Brun, durant ce dernier match décisif, dans le Money Time, tu vas tout arracher.
Nanterre avait une euphorie hallucinante, paranormale. Et Nanterre n'arrive plus à marquer le moindre panier alors que Nanterre avait son match en main en menant 14 points. Stephen Brun est là ! Stephen Brun est là ! Pour son premier panier du match !
Cuconiet Time ! Cuconiet Time avec Stephen Brun ! Quand tout le monde commençait à avoir peur face à la zone, il met les 3 points de la saison là.
Haïti, Stephen Brun, face à Ricardo Breer, il se décale, il branche la 3 points, il l'a ! Oh, c'est dingue ! C'est dingue ! Quel dernier carton, Stephen Brun !
Il y a des frissons, non ? Ouais.
Ça, c'est peut-être le meilleur moment de ma carrière. Parce que déjà, cette salle de Coubertin, elle était tellement bruyante pour nous. C'est une salle atypique, un peu en contrebas, les tribunes en haut, et quand c'est plein, ça bourdonne dans les oreilles. Mais ce match-là, alors oui, on est champion, c'est merveilleux, l'histoire est merveilleuse. Mais en plus de ça, c'est que c'est une des rares fois où, quand je regardais les tribunes, j'avais mon père, ma mère et Johan qui étaient là, et mes meilleurs amis, David, mon meilleur ami, qui était en tribune. Donc ce match-là aussi m'a permis d'avoir tout le monde.
De réunir tout le monde.
Donc c'est pour ça que c'est un match très très particulier.
Match très particulier, on t'écoute à la fin du match. Forcément, très heureux, Stephen Brun.
Il n'y a pas de mots, c'est exceptionnel. Je crois que c'est la plus grosse surprise du sport collectif depuis je ne sais pas combien d'années. C'est incroyable ce qu'on a fait ce soir, un public merveilleux. Ouais, on était en souffrance. Moi, personnellement, je n'avais pas forcément de bonne position, je n'avais pas mis dedans. Voilà, j'avais l'expérience, à un moment donné, il fallait prendre ses responsabilités parce qu'on était en difficulté sur la zone. Voilà, ça m'a souri, mais ce soir, tout le monde a été fantastique.
Ouais, parce qu'on a souvent parlé, évidemment, de tes frasques ou de tes sauts d'humeur, mais tu as été quand même un
très bon... J'ai mis quelques paniers, quand même.
Tu as été un très bon joueur de basket en pro. Tu as aussi joué, donc on l'a compris, un petit peu à l'étranger. Tu es champion de France pour la deuxième fois. Ça n'arrive pas à tout le monde après Nancy, mais pour la deuxième fois, Stephen, on ne va pas te garder.
Non, on ne va pas me garder.
Et tu ne vas pas jouer l'Euroleague.
La deuxième fois que je ne vais pas jouer, c'est le plus grand regret de ma carrière de ne pas avoir joué cette compétition qui est la plus prestigieuse en Europe. Alors sûrement que c'était un niveau trop élevé, mais au moins pouvoir se balader dans les plus belles salles d'Europe et voir de plus près ce qui se fait de mieux en Europe. J'ai pas eu cette chance-là parce que Pascal en pouvait plus. Je pense qu'il est arrivé à bout avec moi, que j'avais été trop tiré sur la corde et qu'elle avait pété et que je ne comprenais pas justement pourquoi il ne me gardait pas, parce que la finalité pour moi, c'est quand tu as gagné, c'est que tu as fait le boulot jusqu'au bout, en oubliant tout ce que j'ai pu faire sur les entraînements, tous les mots que j'ai pu avoir aussi envers Pascal, des mots durs, ou envers des coéquipiers. Moi, j'avais mis ça de côté en voyant que le trophée soulevait, et Pascal, lui, il avait pas mis ça de côté, qu'il avait beaucoup souffert sur des relations qu'on avait eues ensemble, sur des mots qu'on avait pu échanger. Et il a pas pu faire abstraction de tout ça, et il se voyait pas repartir sur une année avec une Coupe d'Europe, ou peut-être avec des moments difficiles parce que des matchs perdus. Il se voyait pas refaire une année avec moi sur le paletot.
Il y a eu 3 rendez-vous quand même avec Pascal Donadieu. 3 rendez-vous pour se dire au revoir.
Oui, parce que le premier, il a duré 35 secondes en fait, que je me suis assis dans le bureau. Il a commencé à parler et j'ai compris sur les premiers mots qu'il n'était pas chaud pour me garder. Donc je me suis levé, j'ai dit écoute, j'ai l'impression que tu ne veux pas me garder. Donc j'étais triste et en colère et je me suis levé et je me suis barré en fait. Donc ça a duré 30 secondes, il n'a pas eu le temps de parler. Il y a eu un deuxième rendez-vous où ça a été un peu plus long, où j'ai compris qu'il ne voulait pas me garder, mais il n'était pas encore sûr de lui parce que Pascal, en fait, il savait qu'il allait me faire de la peine. Donc plutôt que de me dire directement on va pas te garder, il essayait de, tu vois, d'arrondir les angles, de chercher des choses, alors que j'aurais préféré de direct en fait. Et il m'a dit pars en vacances, on se revoit après au retour de tes vacances. Et le troisième rendez-vous, là, il arrive enfin à lâcher le morceau en me disant qu'il va pas me garder. Et donc je me lève en colère. Et il a cette phrase malheureuse en fait où il me dit mais Stephen, si jamais j'ai besoin de toi, je peux t'appeler. Pascal, tu vas me dire que tu me gardais pas, que tu vas pas me, je suis pas ta roue de secours. Enfin, il avait l'impression lui de me donner une bonne nouvelle, en me dire si jamais t'es encore dispo, est-ce que je peux t'appeler. Pour moi, c'était terminé.
Tu lui as dit quoi?
Je lui ai dit non et je suis parti.
Tu lui as dit surtout mon numéro. Tu l'effaces. Exactement. S'il a mis du temps à te l'annoncer, Stephen, je pense que tu vas l'apprendre. C'est pas forcément parce qu'il voulait arrondir les angles ou ne pas te faire de peine. Pascal Donadieu.
Je crois que ça a été la décision la plus douloureuse de toute ma carrière. Et encore maintenant, si on me demandait mon plus grand regret au niveau de tout ce que j'ai fait en termes de coaching, c'est ça. Et à la fois, comme sa personnalité était difficile et ce qu'il vous a dit, de temps en temps, c'était pas simple. Ça a été vraiment quelque chose d'extrêmement compliqué pour moi et ça m'a torturé. Et encore maintenant, je suis vraiment pas sûr d'avoir pris la bonne décision. Et surtout, ce qui m'a chagriné, c'est que c'est effectivement le privé de ne pas pouvoir disputer à jamais cette compétition d'Euroleague.
Mais maintenant, avec le recul, je le comprends. C'était sûrement une bonne décision. Se refaire une année de Stephen Brun.
C'est fort ce qu'il dit quand même. Hein. C'est certainement la plus mauvaise décision de ma carrière. En tout cas, la plus dure.
La plus dure, oui. Mais il m'avait déjà plus ou moins confié. Mais voilà, écoute, il l'a faite, il a pris la décision. Et quand on voit aujourd'hui où est le club de Nanterre, ce qu'ils ont fait, peut-être que c'était une bonne décision, Pascal.
Un nouveau papier avec Stephen Brun dans sa boîte à souvenirs sur RMC. Une nouvelle partie de sa vie.
Pas deux saisons comme ça.
On est juste avant Gravelines.
Juste avant Gravelines.
C'est la raison pour laquelle tu vas atterrir à Gravelines.
Ah, l'Asvel.
Exactement. Parce que si on reprend le fil un petit peu de ton histoire...
C'est incroyable cette chanson, parce que c'était ma chanson préférée à l'époque de l'Asvel en plus. Diams.
Écoute, on se renseigne évidemment, vous êtes bon. Stephen. Tu as 25 ans et c'est une véritable consécration pour toi. Après cet épisode à Lausanne, tu atterris donc à Brest, où tu déchires tout, Stephen.
Oui.
Et l'Asvel se présente à toi, l'Asvel te veut. Cette équipe incroyable du championnat de France, c'est le Graal.
Un monument. Et je me rappellerai toujours mon père qui m'appelle, qui me dit, parce que mon père était joueur professionnel à Caen, il me dit l'Asvel, c'est le club qui m'a toujours fait rêver. Tu te rends compte que tu vas aller à Villeurbanne. Et donc j'arrive à l'Asvel où je signe un contrat de 2 ans. Et là,
d'ailleurs, les 500 euros par mois sont oubliés de Lausanne. Hein.
Ouais.
Là, on est à combien à peu près?
On a fait.
On est à 5000.
Ouais, on est par là, 5000, 6000. On est très loin. On peut faire plusieurs McDo
à Lausanne. Ouais.
Et donc j'arrive. L'Astrobal est une salle magnifique que j'ai jamais connue. Les vestiaires sont incroyables. Il y a des joueurs prestigieux. C'est le Graal dans une carrière de jouer dans peut-être ce qui se fait de mieux en France. Coaché par le sélectionneur de l'équipe de France, Claude Bergeau, avec des internationaux partout, des internationaux suisses aussi, il y avait Harold Mrazek. Et puis pour la première saison, c'est plutôt bien. Alors bien sûr que je suis rookie, moi je suis débutant au plus haut niveau parce que j'ai brillé mais en Pro B avec Brest. Là, je débute en Pro A, en première division.
Tu fais 15 minutes par match.
15 minutes par match, écoute, Claude est plutôt content de moi. Et entretien de fin d'année avec... Le directeur général qui était Anthony Thiodet à l'époque, qui m'appelait mon pépère d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Il me dit bon alors pépère, l'année prochaine on repart comme ça et tout ça, hein, c'est très bien ce que t'as fait, on repart comme ça. Je dis comment ça on repart comme ça? Il me dit bah voilà, on va prendre un garçon costaud à ton poste, tu seras quatrième intérieur en rotation. Je dis comment ça? Il dit bah voilà, comme ça n'est, quoi. Tu sors du banc, tu joues de 12-15 minutes. Je dis ah non. Il me dit, bah pourquoi non? Je dis, bah écoute, là j'ai fait une première année en tant que rookie, apprentissage, c'est plutôt bien passé. Je dis, moi l'année prochaine, il y aura de questions que je joue 15 minutes. Il me dit, bah tu joues quand même dans un grand club, prétendant au titre de champion de France avec une Coupe d'Europe, tu peux pas te demander à être dans le 5 majeur, c'est ta deuxième saison. Je dis, bah si. Il me dit, bah ça va être compliqué. Je dis, ok, bah je m'en vais alors. Il me dit, comment ça tu t'en vas? Je dis, bah dans le contrat, on le déchire, je m'en vais. Et j'ai vu dans ses yeux que je crois que j'étais le premier joueur à vouloir quitter ce club-là, en fait. c'était peut-être une erreur, parce que quitter ce qui se fait de mieux en France, c'est souvent un choix difficile à comprendre. Mais j'ai pas de regret, parce que si j'ai fait cette carrière-là, peut-être que si j'étais resté longtemps à l'ASVEL, j'aurais pas été champion avec Nancy, j'aurais pas été champion avec Nanterre. Tu peux réécrire l'histoire comme tu veux. Moi, aujourd'hui, ma carrière, j'en suis fier. Je pense avoir rentabilisé au maximum mes qualités. J'ai été un bon joueur du championnat de France avec des titres. J'étais pas le meilleur, loin de là. J'ai eu des sélections en équipe de France. Écoute, j'aurais peut-être pu être meilleur en travaillant un petit peu plus ou en mettant un petit peu d'eau dans mon vin, mais aujourd'hui j'ai aucun regret parce que le joueur que j'étais, il était fidèle à ma personnalité.
RMC, la boîte à souvenirs,
la sortie de boîte.
La boîte à souvenirs avec Stephen Brun sur RMC. Nous allons maintenant sortir de la boîte avec toi et on va débuter avec un interrogatoire. C'est souvent le cas quand on sort de boîte et qu'on a beaucoup bu. N'est-ce pas Stephen? Non, ça t'arrive jamais?
Ça m'est arrivé.
L'interrogatoire, ton pire adversaire?
Mon pire adversaire, c'était Flo Pietrus, une légende du basket français, parce que c'était tout ce que je n'étais pas en fait. Athlétique, dur, qui aimait bien aller au contact. Moi, j'étais un joueur où j'avais besoin un peu d'espace, tu vois, pour briller. J'avais pas une énorme détente, donc c'était tout l'inverse de moi et j'ai toujours galéré face à Flo.
Ton pire partenaire?
Mon pire partenaire, bah, j'aurais pu me citer moi, mais je vais citer un joueur qui s'appelle Tim Pickett, qui est un Américain. C'était quand j'étais à l'ASVEL la première année. C'est un garçon qui sortait des États-Unis, qui découvrait l'Europe pour la première fois, avec tout ce que ça comporte. Il était insupportable parce qu'il ne voulait jamais manger ce qu'on mangeait au repas à table. Il arrivait avec des sacs McDo. Un jour, j'étais dans sa chambre avec lui. On avait repas à 12h30. Il dormait. Moi, je lui dis, Tim, faut aller manger. Il me dit, il m'envoie chier comme ça. Je dis, bah, moi, je descends au repas. Il arrive en retard. Il prend une amende. Il vient m'embrouiller. Il voulait se battre avec moi. Il me disait, pourquoi tu m'as pas réveillé? Putain, c'est de ta faute. Ouais, c'était un joueur qui découvrait ce que c'était la France et l'Europe et qui s'est pas du tout adapté.
Le plus grand match de ta vie?
Le plus grand match de ma vie. C'est, avec le maillot bleu, j'en ai fait un très très bon en qualif avec sur le parquet de la Belgique, mais en club, je me rappelle d'un match avec Gravelines contre le Paris Basket Racing de l'époque, qui était organisé à Bercy. De temps en temps, ils faisaient des matchs à Bercy. J'étais avec Gravelines et je crois que ce jour-là, le cercle était devenu des bassines. Je crois que j'avais mis 7 ou 8 tirs à 3 points, je crois.
Oui, parce qu'il faut le dire, hein, on n'en a pas parlé durant cette émission. Tu es surnommé le Dirk Nowitzki français. Tu as beaucoup pris de lui. Voilà,
ça a été mon modèle. À 3 points. Ça a été mon modèle. Je me suis beaucoup inspiré de lui. Alors, j'ai 10 cm de moins, mais j'ai regardé énormément de vidéos de ce garçon.
Joueur de Dallas, évidemment, qui a depuis pris sa retraite. Le pire match de ta vie maintenant?
Le pire match de ma vie, écoute, c'est un match qui aurait pu me coûter un titre de champion de France. Avec Nancy à Bercy, face à Cholet. Je suis pas très bon, je suis très mauvais d'ailleurs, donc je joue pas beaucoup. Et je suis très bien sur le banc parce qu'on joue bien et celui qui est devant moi, Victor Samnik, est très bon, et sauf qu'il fait 5 fautes. Et là, je comprends que je vais devoir retourner sur le terrain pour terminer la rencontre dans le money time. Et je suis cata, je tire à 3 points, je me fais contrer. Je crois que je fais moins 3 d'évaluation sur le match. On a gagné 2 points, je me console en disant que j'ai fait 2 sur 2 lancers francs. Je me dis que c'est peut-être les 2 lancers qui ont fait gagner le match.
Le club dans lequel tu aurais aimé jouer?
En NBA, non, parce que ça a été toujours du domaine du rêve. Mais je sais pas, le Real Madrid, parce que c'est un club mythique, un club omnisport. Je trouve ses couleurs magnifiques, le maillot blanc, les galactiques. Le Real Madrid m'aurait bien plu.
Et si tu avais pu jouer en NBA, ce serait lequel?
Dallas. S'il aurait fallu donner les bouteilles d'eau à Dirk Nowitzki pendant un an, je l'aurais fait.
Le joueur le plus doué que tu as croisé?
J'aurais pu dire, enfin, je l'ai croisé en équipe de France seulement, Tony Parker, mais j'ai envie de te parler d'un garçon qui a aussi fait les beaux jours de l'équipe de France, qui s'appelle Mickaël Gélabal. Multimédaillé avec l'équipe de France, sous Claude Bergeau et avec Vincent Collet. C'est un garçon que j'ai vu débarquer à Cholet en centre de formation. Il est arrivé le premier jour à la salle, première fois qu'il mettait les pieds en métropole, parce qu'il est arrivé de Guadeloupe. Quand t'as 18 ans, t'étais un peu con. Et tu lui dis, mais tu sais dunker, toi? C'est la première question que j'ai posée. Tu sais dunker, toi? Il était en mocassin, en jean et en doudoune. Il me dit, oui, je sais dunker, bah montre-moi. Et en fait, il a pris le ballon à froid. Il est quasiment parti de lancer franc. Il a mis un énorme dunk. Et en fait, j'ai vu la progression de ce garçon et qui a fait qu'après, il a joué à NBA au Real Madrid. Énorme, Mickaël Gélabal.
Le meilleur entraîneur?
Le meilleur entraîneur. J'ai eu beaucoup de très bons tacticiens, mais qui étaient un peu moins bons en dehors du terrain. Il y en a un pour moi qui regroupe les deux critères, bon technicien et très bon manager, c'est Slobodan Subotic, qui était mon coach à Split. qui sur le terrain était exceptionnel. Il a coaché tous les plus grands clubs en Grèce. Très dur, très très dur sur le terrain, mais je l'ai vu faire pleurer des garçons de mon équipe, et à la fin de l'entraînement dire allez ce soir on va tous au resto, et il nous invitait tous au restaurant. C'était humainement très très bon et techniquement très très fort.
Ta pire cuite?
Ma pire cuite, si c'est vraiment une énorme cuite, je me rappelle pas. Écoute, à Boulogne-sur-Mer, on sait que dans les Hauts-de-France, ça aime bien festoyer. Quand on est champion de France avec Boulogne-sur-Mer, j'en prends une énorme. J'ai mes meilleurs amis qui sont là, j'en prends une énorme. Et le lendemain matin, encore une fois, rendez-vous à la mairie avec le maire pour célébrer. Et j'ouvre les yeux, j'ai déjà une heure de retard. Et j'ai 24 appels en absence d'Olivier Bourguin, qui est mon manager général. Le 25e, je le prends. Il me dit « T'es où ?» Il commence à me détruire. Il me dit « Écoute, je peux pas. » Parce que j'ai tenté de me lever. Et j'ai vite compris que c'était pas possible, donc je me suis rallongé. Donc encore une fois, j'ai loupé la cérémonie de titre de champion.
La dernière fois que tu as pleuré?
La dernière fois que j'ai pleuré, en comptant l'émission ou pas?
Non, en comptant pas l'émission.
Et ben, ça fait partie de l'émission. La dernière fois que j'ai pleuré, c'était en préparant l'émission. C'est quand je suis venu discuter avec toi et Pierre Amiche, le très bon producteur de cette émission, où vous m'avez demandé de me livrer, de vous raconter ma vie. Vous m'avez fait pleurer.
Allez, maintenant, l'interrogatoire Stephen Brun va être mené par tes proches. On va écouter tout d'abord Claude Bergeau. Il a une question pour toi, entraîneur de l'ASVEL et de l'équipe de France.
Bonjour Stephen. Bien. Est-ce que tu penses que dans ta carrière, tu as été mal utilisé par un ou plusieurs coachs, eu égard de l'évaluation du niveau que tu fais aujourd'hui?
Débrouille-toi avec cette question.
Non, parce qu'aujourd'hui, des garçons de mon poste, on voit, ce sont des garçons qui s'écartent énormément et qui mettent pas trop les pieds dans la raquette. Donc, je pense que à l'époque où j'ai joué, c'était déjà le cas. Donc, écoute, je crois pas. Si c'est pour toi, Claude, tu m'as très bien utilisé. C'est pas pour ça que je suis parti de l'ASVEL, Claude. T'inquiète pas, c'est pas pour à cause de ta mauvaise utilisation.
Un message maintenant. Ton autre frère, Jérémy Brun, qui veut te dire quelque chose.
On vient d'une famille plutôt discrète sur les sentiments, sur les émotions, donc c'est sûr que on s'est jamais livré à cœur ouvert, on n'a jamais eu de grande discussion. En plus, la différence d'âge faisait que moi je suis parti, il était encore un peu jeune. Il sait que je suis admiratif de sa carrière, de l'avant, de l'après. Après lui dire quelque chose que j'ai jamais dit, à part que je l'aime et que je le suis toujours autant et que je suis toujours admiratif de sa carrière post-basketteur, c'est ce que je peux lui dire.
Je crois que c'était la fin devait être sympa, non? je crois que c'était on était sur l'humour à la fin, non?
C'est pas encore tout à fait terminé.
C'est pas tout à fait terminé. Écoute, Jérémy, mon grand frère, l'aîné, c'est avec qui j'ai plus de distance qu'avec Johan, en fait. On n'a pas, c'est malheureux de dire ça, mais j'ai pas beaucoup d'atomes crochus avec lui parce que j'ai pas partagé énormément de choses avec lui. Comme il l'a dit, il est parti très tôt aussi. Je sais qu'il est toujours il a toujours été fier de ce que j'ai fait et qu'il aimerait justement que je le fasse rentrer un petit peu plus dans ma vie, partager un petit peu de ce que je fais, parce qu'il est, je sais qu'il écoute tout, qu'il est à l'affût.
Il me l'a confié, ça je te,
ouais.
Ça je peux te le dire. Ouais.
Et j'aimerais bien le faire. Et écoute, c'est pas trop tard, je vais essayer, même si c'est compliqué parce que la situation familiale est compliquée. Mais c'est aussi un regret que j'ai, c'est que j'ai pas partagé assez de choses avec lui comme j'ai pu le faire avec Johan.
Allez, Germain Castano pour une question maintenant.
Je sais qu'il fait une belle reconversion. Et est-ce qu'un jour, il aimerait être dirigeant ou manager général d'un bon club de basket? Parce que je sais que tu as le nez fin, Stephen. Je sais que tu es quelqu'un qui regarde, un vrai passionné qui regarde le basket. Et est-ce que c'est un rôle un jour qui t'exciterait?
Eh bien, il a raison. Il a raison, Germain. Encore une fois, il me connaît bien. Parce que c'est quelque chose, effectivement, si je dois un jour quitter les médias, le seul poste qui me brancherait, c'est d'être manager général d'une équipe. d'une équipe professionnelle parce que j'ai envie de monter une équipe, j'ai envie de scouter des joueurs, de regarder des vidéos tous les jours, j'ai envie de signer des contrats, j'ai envie de parler avec des agents, j'ai envie de choisir un coach, voilà, j'ai envie de convoquer des joueurs dans mon bureau comme j'ai pu être convoqué par des managers généraux auparavant. Et c'est vrai, c'est un métier qui m'intéresse et qui pourrait éventuellement me faire quitter les médias, mais il n'y a que ça.
Tu es en train de postuler là?
Je ne suis pas en train de postuler, je suis très bien dans ce que je fais, mais si jamais je dois un jour quitter les médias ou les médias s'arrêtent, parce qu'on sait que tu es quand même dépendant de beaucoup de choses quand tu travailles dans le milieu de la télé et de la radio, mais m'investir dans une équipe professionnelle, bâtir une équipe, tu vois, je trouve ça énorme de choisir les pions par pion, il faut que ça matche, il faut que ce soit un puzzle, il faut que les caractères s'emboîtent aussi, que les qualités des uns et des autres s'emboîtent, choisir un coach, être capable de discuter avec les joueurs, parce que je pense que je connais le basket et être capable de gérer un caractère comme j'ai pu l'être, j'aimerais bien en fait un jour gérer un joueur qui est comme moi en fait, voir de l'autre côté, tu vois, vous avoir la vision qu'ont pu avoir mes autres coachs, mes différents
coachs. Tu penses que ça donnerait quoi?
Ah, je pense qu'il pourrait y avoir du verre cassé dans le burlingue.
Un autre message pour toi, Stephen. Ton frère, autre frère, Johan.
Donc écoute, cette petite rétrospective là va le toucher et donc prévois les mouchoirs. Donc Stephen, je sais, je connais ta faiblesse. Message, écoute, petit frère, je t'aime, quoi, tout simplement. J'espère qu'on va passer des bons moments. J'espère que, voilà, la vie va continuer et que sache que notre défi prévoit des raquettes, parce que en plus des mouchoirs, parce que je pense que tu peux casser une ou deux raquettes. Donc, prévoit du matériel et voilà, prépare-toi. Je t'embrasse.
C'est quoi ce défi?
Le défi, en fait, mon frère qui a été dans le tennis, qui a été classé moins 15 et qui est aujourd'hui entraîneur de tennis aux États-Unis. Aujourd'hui, j'ai 40 ans, je ne l'ai jamais battu. Je l'ai jamais battu parce que déjà, d'une, j'ai vite arrêté le tennis et je me suis mis au basket. Sauf que là, j'ai l'impression qu'on est à un tournant. Moi, j'ai repris le tennis, je suis aujourd'hui classé 3-6. Lui, il est prof donc, aux États-Unis, donc il ne fait plus jamais de tournoi. Donc, il est redescendu et là, il est moins bien classé que moi. C'est la première fois en 40 ans que j'ai un meilleur classement que lui et on s'est mis pour défi pour les fêtes de Noël, vu qu'il rentre à Caen pour les fêtes, d'aller jouer. Et ça me fait mal au cœur parce que j'ai beaucoup d'amour pour Johan, beaucoup de respect, mais je crois que je vais devoir le cirer au tennis pendant les périodes des fêtes.
Cédric Heitz, oui. Assistant coach à Nancy, a aussi une question pour toi.
Salut Stephen, écoute, après cette carrière bien chargée en titres et en récompenses, j'aurais aimé savoir combien de t-shirts tu avais déchiré à l'entraînement.
À vue de nez comme ça.
Bah, je sais pas, une petite dizaine. Mais je sais pas. En fait, des fois, je loupais des tirs. Tu sais, à l'entraînement, dans les clubs pro, t'as des réversibles. Pour faire les équipes, on te dit t'es en rouge ou t'es en blanc. Et c'est des débardeurs, en fait. Et parfois, je loupais un ou deux tirs et je disjonctais. Et pour passer ma frustration, j'arrachais mes maillots d'entraînement. Donc, ils finissaient en lambeaux. Et donc, parfois, je finissais les entraînements torse nu. Voilà.
Un nouveau message maintenant pour toi, Stephen. Y a une personne dont on n'a pas parlé encore, un de tes proches. C'est qui, tu penses?
Un de mes proches? Ma famille?
Oui.
On a eu mes deux frères, on a eu ma mère, on a eu mon père.
On a eu Laetitia aussi. On n'a pas eu Noam, ton fils.
Bonjour papa, je suis là pour te faire de gros bisous. J'espère que ton émission se passe bien aussi. C'est le début ou la fin. On t'a fait cette surprise pour te dire que je t'aime fort. Gros bisous.
Ça va pas être facile, là. Là, je le sens. Tu vas même me faire pleurer.
Ah, c'est mon petit bébé, ça. Noam. Il a 9 ans. Il habite avec sa maman à Montpellier. Donc, je le vois pas souvent. C'est quand je l'ai, je m'en régale parce que déjà le temps passe vite quand tu l'as pas souvent. À chaque fois que tu le vois, il a grandi, il a évolué. C'est dur parce que j'aimerais, mais c'est toujours facile de dire que t'aimerais être là plus souvent pour ton fils. Et parfois, j'ai l'impression de mettre le travail trop en priorité par rapport à mon fils, alors que je pense que je pourrais le voir le week-end. C'est un sacré filou. C'est un sacré filou. Ce qui m'inquiète, c'est qu'à l'école, il fait déjà les mêmes conneries que moi alors qu'il a 9 ans. mais c'est un bon garçon. C'est un très bon garçon. Je l'aime très fort, ce petit Noam.
Tu vois, dans cette émission, on pleure, mais tout de suite derrière, on rigole.
Oui.
Parce que ton meilleur pote, David, a une question pour toi.
Salut, Steve. Alors, j'ai une petite question parce que j'ai un souvenir qui me revient et j'ai une question parce que depuis, je ne sais pas ce qui s'est passé après. On devait être en minime ou en cadet, je ne sais plus contre qui on jouait. Et est arrivé ton premier dunk en contre-attaque et ensuite, tu as disparu. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce qui s'est passé suite à ce dunk?
David, ça aussi, c'est une personne qui a beaucoup compté dans ma vie. C'est mon ami que je connais depuis l'âge de 13 ans, quand j'ai emménagé à Annecy. Et déjà, faut que je te raconte déjà comment on s'est connu. Je suis arrivé dans l'équipe de basket à Annecy, lui, c'était un peu la star de l'équipe. Je lui ai vite fait de l'ombre, et sur un premier match officiel, en fait, il y a eu une bataille au rebond, et je lui ai mis une énorme taloche, alors qu'on était dans la même équipe. Et il s'est toujours demandé qui lui avait mis, et j'ai tardé à lui dire un jour que c'était moi. Et donc, cette claque nous a un peu liés. Après, on a joué ensemble en étant un peu plus vieux. Et en fait, c'est vrai que j'ai loupé beaucoup d'entraînements dans ma vie, pas mal de matchs aussi, parce que le stress, j'ai des gros problèmes gastriques, Jean-Christophe Drouet, et que de temps en temps, il m'arrive de devoir quitter le terrain pour une urgence sanitaire, et c'est vrai qu'après ce dunk, je ne sais pas pourquoi, surplus d'émotion pour le premier dunk de ma vie en match, hop, j'ai été appelé par les toilettes, donc j'ai dû m'absenter une bonne vingtaine de minutes.
Évidemment, tout le monde connaissait, en tout cas David et moi-même, la réponse à la question, mais on avait quand même envie de te poser la question. On rigole dans cette émission, et puis on pleure de nouveau. Ton papa, Christian, il a un message. En tout cas, on est resté longtemps au téléphone ensemble, et puis voici ce qu'il dit de toi.
C'est pas parce qu'on a eu un père con qu'on doit être con soi-même. Hein. Je vais pas dire qu'il s'est fait lui-même, mais pas loin. Hein. Il a engendré beaucoup de relations et des copains qu'il a depuis une vingtaine d'années qui sont toujours là. Je suis fier de son parcours. Hein. Chaque fois que j'ai l'occasion de parler avec de Stephen, avec des voisins, avec des gens que je connais, comme ça, bon, c'est toujours quelque chose de positif. Hein. Bon, tout ça, c'est quelque chose qui peut rendre effectivement fier de son fils, bien sûr.
Ouais. Je pense qu'il se rend compte maintenant qu'il aurait peut-être pu faire autrement. Ouais, c'est comme ça maintenant. Le temps est passé. Que veux-tu que je lui dise? Je lui dirai jamais. Je lui dirai jamais ce que j'avais comme attente. Maintenant, j'essaye, comme il le dit, de faire autrement avec mon fils. Mais malgré tout ce qu'il a pu faire ou ne pas faire, malgré tout ce que j'ai pu entendre et pu voir aussi de mes propres yeux quand j'habitais avec ma maman, ça n'empêchera pas que ça restera mon père et que j'ai de l'amour pour lui. Voilà, tout simplement. Même si je sais que prononcer ces mots fait mal à maman, mais je ne peux pas faire autrement. Je l'aime.
David Cosette a une question pour toi.
Stephen, mon grand, j'ai une seule question qui me taraude. Est-ce que tu crois qu'on va recommencer ensemble un jour?
Ah, sacrée question. On rappelle que David s'est engagé dans une autre voie, dans une autre vie, où il a un hôtel, un restaurant ailleurs. Et je sais que c'est ton complice, voilà, depuis le début dans les médias, on en a parlé. Vous allez recommander ou pas un jour, ensemble?
Écoute, si ça tenait qu'à moi, oui.
Dès demain?
Oui. Après, c'est dur pour moi, parce qu'aujourd'hui, je commente avec des garçons qui sont Alex Biggerstaff et Nico Bayou. Si je dois dire que je rêve de recommenter avec David, ça serait aussi décrédibiliser ces deux garçons avec qui je prends beaucoup de plaisir à commenter. Tu vois, c'est un peu comme dans le sport, tu fais partie d'une équipe, et j'ai fait partie d'une belle équipe avec David. On s'est quitté parce que lui a choisi aussi de prendre un autre chemin, même si je suis persuadé qu'il a encore envie de commenter. Moi, je suis parti dans une autre équipe, mais parfois, dans le sport, tu te retrouves un ancien coéquipier. Donc, ça peut arriver, et j'espère que ça arrivera.
Du sourire, et maintenant, ta maman qui a un message pour toi.
Ah, je suis consciente, là, du coup, vous allez me faire pleurer comme lui, hein. Je pense que je suis consciente que j'ai pas fait un divorce intelligent et que Voilà, je suis désolée. Moi, Stephen, je l'adore et je dis que c'est quelqu'un de grand, que je suis très fière de lui, que je lui souhaite de continuer comme il est parti avec le potentiel qu'il a pour moi. J'ai aucun souci, il ira certainement là où il a envie d'aller et que toutes les souffrances qui sont venues du divorce, je les regrette. Voilà.
Voilà.
Oui, voilà. Oui, ma mère aussi, je l'aime. Je l'aime parce que j'ai partagé énormément de choses, j'ai vu les moments difficiles par lesquels elle a pu passer. La vie fait que parfois il faut prendre des décisions difficiles, qui fait qu'aujourd'hui je suis un peu en froid avec elle. Mais j'entends tous mes amis qu'on a pu entendre me dire que tu peux pas non plus ne plus parler à ta maman ou à ton papa. Donc à un moment donné, il va falloir que j'ai cette capacité de renouer les liens et d'apprendre à lui téléphoner, à lui parler, à la revoir comme mon père. Mais ça, je suis persuadé que je vais réussir à le faire.
Si, évidemment, à nos petits niveaux, on peut servir à ça aussi. Écoute, on sera très heureux pour toi, Stephen. Une question maintenant cruciale, très importante, difficile d'y répondre. Laetitia, ta compagne.
Bon, mon petit Pef, j'ai une question pour toi. Entre Federer et moi, tu choisis qui?
Non, il faut savoir que Federer est aussi un idole. Un idole.
Il hésite. Tu vas passer un mauvais week-end.
le bon sens va faire répondre Laetitia. Mais dans le scénario idéal, ça serait que je vois Federer et que après j'aille récupérer Laetitia. Tu vois, ça serait le scénario idéal. Mais c'est vrai que c'est un rêve. Je suis passé à 25 mètres de lui à Bercy, à Federer. Nowitzki, je suis passé à un jour de lui à Dallas, on s'est croisés, il a pris l'avion pour rentrer en Allemagne, moi j'arrivais à Dallas, donc je ne désespère pas pardon, de les croiser un jour, mais Laetitia m'apporte quand même un petit peu plus de bonheur que Federer au quotidien.
Justement, un dernier message pour toi dans cette émission, c'est signé Laetitia.
Je te remercie pour tout, parce que pour moi c'est l'homme de ma vie, et malgré son caractère, son mauvais caractère, mais quand même il a un bon cœur, parce que c'est quelqu'un qui donne énormément et aux gens qu'il aime. Voilà, moi je l'aime comme il est, et puis qu'il ne change pas.
C'est beau, c'est gentil. J'ai pas toujours été tendre avec elle, quand elle était joueuse notamment.
Ça m'étonne.
J'avais toujours ce regard critique, parce que je voulais qu'elle s'améliore et qu'elle progresse. Donc parfois sur des après-matchs, j'ai été comme d'habitude, hein, j'ai dit la vérité. Donc mais c'est une personne formidable qui a le cœur sur la main et surtout qui arrive à me supporter. Et ça, c'est une énorme qualité, ça j'y sais.
Moi, je te supporte très bien aussi, même si je ne fais pas partie de ta vie.
Tu dors pas avec moi.
Merci infiniment, Stephen, pour cette émission.
Merci à vous. C'était une émission formidable. Je ne pensais pas que j'allais passer par toutes ces émotions. Vous avez été fantastique en termes de travail. C'est énormément de boulot pour refaire vivre ma vie, parce qu'on a repassé ma vie du début à la fin, avec des personnes que je n'avais pas entendues depuis longtemps. Donc merci à toi, JC, merci à Pierre, merci à toute l'équipe. Vous faites un travail monumental et c'est une très très belle émission. Merci à vous.